Qu'est-ce que c'est que la vérité si la vérité est celle d'un Dieu vivant ?
Rappelle-toi les jours d'autrefois. Considère les années, de génération en génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes anciens, ils te le diront.
Et en même temps, il dit quelque chose du « c'est bon, la vie, c'est beau ».
Auditrice, auditeur, bien le bonjour. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, le sujet de notre étude est un peuple, une population du littoral cananéen. J'ai nommé les Philistins. Si les Philistins de la Bible sont connus pour les épisodes mythiques du géant Goliath abattu par David, du vol de l'Arche de l'Alliance, ou encore de Dalila ayant coupé les cheveux magiques de Samson l'Israélite, ils sont moins bien connus archéologiquement. Mais qu'est-ce que l'étude d'un groupe humain dépossédé de sa réalité matérielle ? Une étude bien lacunaire sans doute. Mais l'archéo n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous attarder sur certaines découvertes qui bouleversent notre regard sur un peuple souvent caricaturé, mais dont la culture, la religion et les coutumes étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. Mais avant toute chose, allons jeter un coup d'œil à la façon dont la Bible les décrit et quel rôle elle leur prête. La première occurrence du mot « philistin » de l'hébreu « pelishtim » apparaît dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, verset 14, dans la table des nations. Voici le passage. Misraïm engendra les Ludites, les Anamites, les Léabites, les Naphtouites, les Patrusites, les Casluites, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorites. Ce verset rattache les Philistins à Misraïm, le nom biblique de l'Égypte, et aux Casluites, ce qui suggère une origine étrangère à Canaan. Ici, probablement du côté de la région égyptienne. Mais, comme à son habitude, la Bible elle-même n'est pas tout à fait claire quant à la terre originelle de ce peuple, puisque si ce texte dit que les Philistins viennent des Casluites, d'autres passages, tels que Amos chapitre 9 verset 7, ou encore Jérémie chapitre 47 verset 4, affirment qu'ils viennent de Caphtor. Par exemple, dans Amos, il est dit « N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte ? Les Philistins de Caphtor et les Araméens de Kir. Caphtor est en règle générale identifié à la Crète, ou plus largement aux îles Égéennes. Mais certains chercheurs la situent en Cilicie, à Chypre ou dans le delta égyptien. Mais la thèse crétoise reste la plus courante. D'après ces passages, les Philistins seraient donc toujours bien d'origine étrangère à Canaan, mais cette fois-ci du côté de la Crète ou de la mer Égée, selon les interprétations historiques. Le pays des Philistins a pour roi Abimélec, et la Bible nous dit qu'Abraham lui-même y séjourne un certain temps. Mais donc, ce pays, où se trouve-t-il exactement ? Eh bien, le pays des Philistins se trouve sur la côte sud-ouest du pays de Canaan, c'est-à-dire sur la plaine littorale méditerranéenne, entre l'Égypte au sud-ouest et le royaume de Juda d'Israël au nord-est. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la bande côtière du sud d'Israël et de Gaza. Les cinq principales cités philistines, et retenez bien ça, appelés dans la Bible pentapoles philistines, sont Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron. Ces cinq villes formaient une sorte de ligue urbaine indépendante, chacune dirigée par un roi, appelé Seren en hébreu. Aujourd'hui, le territoire des anciens philistins correspond à peu près à la région de Gaza, Ashdod et Ashkelon au sud d'Israël et la basse plaine de Juda. C'est donc une bande côtière d'environ 80 km de long et 20-25 km de large entre la Méditerranée et le désert de Negev. Il est complexe d'aborder la question de la représentation des Philistins et de son évolution dans la Bible. S'ils sont des voisins étrangers mais civilisés dans la Genèse, ils évoluent peu à peu en peuple guerrier menaçant jusqu'à devenir oppresseurs d'Israël et instruments du châtiment de Yahvé sur Israël lorsque ce dernier est plongé dans le péché. Cette vision apparaît dans le livre des Juges. Les Philistins y sont l'ennemi national d'Israël, symbole d'oppression et de domination. Ils sont ainsi à la fois agents du jugement divin et adversaires vaincus par les héros d'Israël, notamment Samson. Également, dans le second livre de Samuel, David bat les Philistins à plusieurs reprises et soumet leur territoire. Le peuple est ainsi vaincu. Mais l'avis de la population philistine au sein de la Bible ne s'arrête pas là, puisqu'il continue par la suite, dans plusieurs livres de prophètes, tels qu'Amos ou Ézéchiel, d'être des symboles des nations hostiles punies par Dieu. Sans compter qu'au sein du livre de Néhémie, on nous précise que certains Judéens ont épousé des femmes d'Ashdod, cité philistine. Il y a donc une philistinisation culturelle. Mais ce brassage est vu d'un mauvais œil dans la Bible. En clair, les Philistins de la Bible oscillent entre ennemis puissants, peuple étranger installé sur la côte sud de Canaan et instrument du jugement divin. Dur d'être un Philistin dans la Bible. Et maintenant, après cette petite pause musicale, voyons un petit peu ce que les sources archéologiques ont à nous dire des Philistins. Tout comme pour la Bible, en archéologie, il y a aussi matière sur la question des Philistins. À l'heure actuelle, les archéologues sont bien d'accord sur une chose. Les Philistins étaient a priori bien différents de leurs voisins cananéens. En effet, plusieurs céramiques et objets décorés du début du XIIe siècle avant Jésus-Christ témoignent de l'arrivée des Philistins sur la côte sud du Levant, dans ce que l'on appellera plus tard la Pentapole philistine, dont je vous parlais tout à l'heure, avec Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron. Ces céramiques permettent d'établir un lien avec les céramiques mycéniennes, donc de la Grèce continentale, de la Crète, de l'Égée. Puisque celles-ci ont de fortes ressemblances de formes, notamment avec la présence de cratères, de kylix, d'amphores, de skiffoïs, mais aussi des décors similaires, avec des spirales, des oiseaux, des poissons, des motifs géométriques rouges et noirs sur fond clair. Mais il y a aussi une similitude sur les techniques de fabrication, puisqu'on va utiliser de l'argile fine, de l'engobe et une cuisson à haute température. Elle témoigne également d'une utilisation de hiéroglyphes crétois, une écriture utilisée en Crète et en Grèce avant 1200 avant Jésus-Christ environ, et aussi d'une consommation importante de porc, contrairement à leurs voisins cananéens qui en consommaient très peu ou qui seront plus tard interdits d'en manger, tel que c'est le cas des Israélites. Certains chercheurs associent même les Philistins au très fameux peuple de la mer, bien connu du nom, mais dont on ne sait pas grand-chose en vérité. Ils constituent une très mystérieuse... Ils constituent une très mystérieuse confédération de tribus qui, selon des sources égyptiennes et d'autres sources historiques, semble avoir ravagé l'est de la Méditerranée à la fin de l'âge du bronze, entre le XIIIe siècle et le début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais voici, nous disposons de plus encore d'informations. Effectivement, une nouvelle étude nommée « L'ADN ancien éclaire les origines génétiques des premiers Philistins de l'âge du fer » avait été publiée le 3 juillet 2019 et elle constituait la toute première étude ADN pratiquée dans un cimetière découvert en 2016 dans l'ancienne ville philistine d'Ashkelon. Ce nouvel examen met en avant un aperçu tout neuf sur les origines génétiques et l'héritage de ceux qui ont constitué le cauchemar géopolitique préféré des auteurs de l'Ancien Testament. Cette analyse confirme l'origine étrangère des Philistins et révèle en plus de cela que cette population s'est rapidement mélangée aux locaux. Et ça c'est intéressant, n'en déplaise à la Bible. Voici comment s'est organisée l'exploration génétique. L'étude a analysé l'ADN de 10 ensembles de restes humains au cours de 3 périodes différentes. D'abord, un lieu de sépulture datant de l'âge du bronze moyen tardif, c'est-à-dire environ entre 1650 et 1200 avant Jésus-Christ, antérieur à la présence philistine dans la région. Puis, des sépultures d'enfants datant de la fin des années 1100 avant notre ère, et donc après l'arrivée des Philistins au début de l'âge du fer. Et enfin, un groupe de personnes enterrées dans le cimetière philistin à la fin de l'âge du fer, cette fois-ci entre le 10e et le 9e siècle avant notre ère. Les 4 échantillons ADN du début de l'âge du fer, provenant tous de nourrissons enterrés sous le plancher des maisons philistines, incluent proportionnellement plus d'origine européenne additionnelle dans leur signature génétique, environ 14%, que les échantillons antérieurs à l'âge du bronze, de 2 à 9%. Bien que les origines de cette ascendance européenne additionnelle ne soient pas concluantes, les modèles les plus plausibles renvoient à la Grèce, à la Crète, à la Sardaigne aussi, et à la péninsule ibérique. Voici ce qu'avait à dire Daniel Master, directeur de l'expédition à Ashkelon et co-auteur de l'étude à propos de ses résultats. Je le cite. « Cela correspond aux textes égyptiens et aux autres textes que nous connaissons, et au matériel archéologique. » Fin de la citation. Selon lui, ces résultats sont la preuve directe de la migration des Philistins vers l'ouest, avant de s'installer à Ashkelon, au XIIe siècle avant notre ère. Mais il y a une chose encore plus remarquable. Dans les générations suivantes, vers 1000 avant Jésus-Christ, la proportion de cet ADN venu d'ailleurs est si faible qu'elle ne se distingue plus des variations normales de la région. Elle est donc statistiquement insignifiante. Autrement dit, il n'y a plus de différence notable. Et cette petite proportion d'ADN d'origine européenne ou égéenne disparaît visiblement rapidement. Les dernières sépultures philistines ont des signatures génétiques très similaires aux populations locales qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Philistins. Visiblement, au fil du temps, les Philistins se sont mariés et mêlés avec les habitants du Levant. En quelques générations, ils se sont génétiquement fondus dans la population locale. En revanche, ils ont a priori conservé une culture distinctive, comme nous l'avons vu avec les céramiques et comme nous le verrons rapidement sur la question des coutumes. Mais en tout cas, leurs différences biologiques initiales, ils n'ont pas conservé. Voici ce qu'en dit Michael Feldman, archéologue à l'Institut Max Planck et co-auteur de l'étude. Je cite. « Nous avons réussi à saisir ce mouvement migratoire vers Ashkelon en provenance du sud de l'Europe. Ensuite, la présence génétique philistine disparaît très rapidement dans les 200 ans, probablement parce que les philistins se sont mêlés aux locaux et que ce type de signature génétique a été dilué au sein de la population locale. » Fin de citation. Pour Daniel Master, le plus intéressant est le fait que, malgré la rapide assimilation génétique subie par les Philistins, ils sont restés, comme nous le disions plus tôt, un groupe culturel distinct, clairement identifiable de leurs voisins pendant plus de 5 siècles, jusqu'à leur conquête par les Babyloniens en 604 avant notre ère. Il dit, je le cite à nouveau, « C'est assez intéressant de voir comment la génétique des Philistins a changé en si peu de temps. » Parce que si vous vous basez uniquement sur les textes bibliques, vous pourriez croire que personne ne voulait se mêler aux Philistins. Auditrice, auditeur, pour l'instant, nous avons en quelque sorte blablaté à propos des représentations des Philistins dans la Bible, ainsi que sur certaines approches matérielles et archéogénétiques de ce peuple. Mais qu'en est-il de ces traditions religieuses ? Je vous propose un nouveau détour, mais cette fois-ci plus récent. Le 12 février 2024 sont publiés dans les Scientific Reports les résultats de nouvelles recherches menées à Gath, dans deux anciens temples philistins construits l'un sur l'autre au 10e et au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces résultats montrent que des plantes utilisées dans le culte des divinités féminines en Grèce antique l'étaient aussi chez les philistins. Avant toute chose, Gath, c'est quoi ? Eh bien, Gath, ou Tel el-Safi en arabe, est l'une des principales cités-états de la Philistie. Nous l'avons mentionné tout à l'heure. Elle est la ville dont est originaire le célébrissime géant Goliath. Néanmoins, peu de vestiges matériels sur ce site sont conservés, et le double temple que nous mentionnons plus tôt aurait, lui, été détruit par le roi de Damas, Hazaël, lors de sa conquête des contreforts de la région historique de Juda. En revanche, les archéologues ont pu retrouver quelques traces inestimables vieilles de 2800 ans. Des restes de végétaux, de céréales, de fruits, de mauvaises herbes qui pourraient avoir été préparées, consommées ou plus généralement déposées en offrande dans le cadre de pratiques culturelles dans les temples. Or, il se trouve que plusieurs de ces plantes étaient connues pour être notamment liées au culte de déesses féminines en Grèce. Ceci impliquerait donc une influence de la culture hellénistique sur la culture philistine. Certaines de ces plantes étaient employées pour leurs qualités médicinales ou psychotropes. Elles étaient utilisées dans des temples antiques, principalement dédiés à des divinités féminines, telles qu'Héra, déesse du mariage, de la famille et de la maternité, Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté, ou encore Déméter, déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité de la terre. Les chercheurs s'attardent notamment sur la présence de l'arbre chaste, avec environ 100 fruits retrouvés dans les temples de Gath. Cet arbre était en particulier dédié aux rituels spécifiques liés à Artémis et à Asclépios, menés dans la cité-état de Sparte, dans le Péloponnèse. Il l'était également pour les cultes se tenant à l'Héraïon, à Samos, consacré à Héra. Toujours parmi les végétaux étudiés, il faut noter la présence de l'ivraie, dont les graines toxiques procurent des hallucinations, dont les effets sont apparemment comparables à l'ivresse. Enfin, personnellement, moi je sais pas, j'ai pas testé. Mais quoi qu'il en soit, ces graines étaient employées par les sages-femmes. Une information qui nécessiterait une émission à elle seule. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Ainsi, dans leur étude, les auteurs insistent sur la grande influence que les Grecs auraient pu avoir sur les Philistins, peut-être en raison de leur probable origine grecque. Ils écrivent, je cite, « Ces plantes méditerranéennes largement répandues étaient connues jusqu'à présent uniquement dans les cultes Ils écrivent, je cite, « Ces plantes méditerranéennes largement répandues étaient connues jusqu'à présent uniquement dans les cultes ultérieurs des premières divinités grecques. » Fin de la citation. Et qui l'aurait prédit ? Des plantes nous guidant sur les traces des rituels philistins. Mais c'est sans doute là tout l'intérêt de l'archéologie. Aller chercher jusqu'aux plus petits indices de la vie des hommes sur Terre. Et voilà, notre exploration du monde philistin touche à sa fin. Certes, nous les connaissons surtout comme les adversaires emblématiques des Israélites dans la Bible. Mais l'archéologie, elle, nous montre un peuple bien plus complexe. Des artisans raffinés, des navigateurs venus d'horizons variés, installés durablement sur les côtes de Canaan, et qui ont su se mêler aux populations locales. Leurs pratiques religieuses, leurs objets du quotidien, leur mort même, nous racontent une histoire qui dépasse largement les quelques scènes de confrontation dont la Bible a gardé la mémoire. En croisant textes et vestiges, on découvre finalement non pas des ennemis mais des voisins, des acteurs à part entière d'un Proche-Orient mouvant, multiculturel, en permanente recomposition. Et c'est peut-être ça la force de l'archéologie biblique. Redonner chair, nuance et humanité à des peuples que l'histoire écrite avait parfois figés. Les Philistins, eux, sortent du cliché pour redevenir ce qu'ils furent. Une société riche, vivante et au cœur des dynamiques de leur temps. Ah, Philistins, je vous aime bien. Je finis avec l'agenda de l'émission et vous invite à aller découvrir l'exposition « Chevaux, héros oubliés, archéologie d'une espèce au fil du temps » qui a lieu au musée Henri Prades de Latte. Cette expo se tiendra jusqu'au 5 janvier 2026. Elle concerne la recherche archéozoologique sur les chevaux anciens, la biochimie, l'évolution des équidés et la relation entre hommes et chevaux. auditrices, auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis au mois prochain.